Je vais faire une toute pause. Je commence ce chapitre. Et ici, au deuxième paragraphe. Alors, ça commence par une citation du Talmud. Et je vais essayer de formuler très rapidement, comme sujet général de ce chapitre, le fait que, par définition, l'idée de l'utopie, c'est qu'il s'agit de quelque chose d'irréalisable. Parce que si ça se réaliserait, et ce ne serait plus une qui semble être une des évidences de la société occidentale, une utopie par définition ne doit pas se réaliser au nom de l'enseignement du Maharal. Le Maharal va critiquer cela. Et puis, une deuxième définition, c'est que étymologiquement même, et nous aurons sûrement à le reprendre dans toutes les conférences, utopie, ça veut dire à partir du grec, un projet qui n'a pas d'endroit pour se réaliser. Or, le messianisme en tant qu'utopie juive a un endroit pour se réaliser. Par conséquent, il y aura une deuxième critique de cette même notion, peut-être pas déjà ce matin, mais déjà dans les textes suivants. Alors, dans les textes qui précèdent, et c'est récapitulé dans le premier paragraphe de ce chapitre, le Maharal avait fait toute une analyse de la structure du temps en tant que tel, un problème pour lui-même. Nous aurons peut-être d'ailleurs à le reprendre au troisième séminaire avec Bergson. Et simplement, j'indiquerai, et il le résume dans ce premier paragraphe, indiquer que le temps, tel qu'il est conçu par la tradition juive, par l'enseignement de la Torah, n'est pas du tout quelque chose d'uniforme, d'homogène. C'est une durée qui a une qualité. Et il faut simplement retenir ce postulat de prémisse pour pouvoir aborder ensuite l'étude que le Maharal va nous donner de la citation qu'il fait d'une page de la Maseret Sanhedrin, le 11e chapitre, la page 97a, ceux qui veulent se référer au texte du Talmud, le texte commence tout à fait au bas de la page. Donc c'est Sanhedrin 97a. C'est un texte assez classique que vous avez certainement eu l'occasion d'étudier d'autre part. Alors je vais tout de suite embrayer sur la lecture. Nous n'avons pratiquement pas par écrit l'enseignement. Alors, par rapport à notre sujet, et où les citations qui sont habituellement mises sous cet indice, Tana Debe Eliaou, on a enseigné dans la maison d'Eliaou littéralement, mais c'est le Beta Midrash, à l'école d'Eliaou, c'est-à-dire, on réfère à Élie le prophète la quantité, c'est pas une question de quantité, mais enfin, disons la somme de contenu de prophétie qui n'a pas encore été révélée à partir de la fin de l'époque historique de la prophétie. C'est-à-dire tout ce qui est encore une sorte de rémanence, de continuation de la prophétie qui s'était interrompue historiquement à la destruction du premier temple, lorsqu'il est nécessaire que quoi que ce soit de la prophétie nous soit donné, bien que le temps de la prophétie soit clos, alors c'est relié à l'enseignement d'Élie le prophète. Ou dit d'une autre manière, tout ce qui n'a pas encore été dit, mais qui va être dit, c'est Élie le prophète. Bon, voilà la définition très, très succincte. Et en fait, d'un point de vue plus pratique, plus existentiel, si vous voulez, lorsque dans un Beta Midrash, lorsque dans une étude, il apparaît un chidouche, c'est-à-dire une connaissance nouvelle, vraiment nouvelle, et lorsque je dis chidouche, faites bien attention à cela, c'est pas quelque chose de différent de l'enseignement de la Torah, qui viendrait s'ajouter à l'enseignement de la Torah. C'est un enseignement de la Torah, mais qui est donné sous une forme renouvelée, nécessitée par le temps où on se trouve. Faites une distinction très précise entre la notion de chidouche, c'est-à-dire quelque chose qui s'est renouvelé, et donc apparaît un élément nouveau, et d'autre part, la notion de chinouï, quelque chose qui serait différent de ce que l'on savait déjà. Le chinouï est inauthentique. Ce qui est différent, c'est différent, c'est autre chose. Le chidouche, c'est le renouvellement, le fait de faire apparaître un aspect nouveau, mais de quelque chose qui préexiste de façon authentique. Alors, lorsque, à la fin d'une étude, on s'est aperçu qu'on a appris quelque chose de nouveau, et que plus personne n'est capable de dire qui a dit ça pendant l'étude, alors on dit que c'est Eliyahu HaNavi qui l'a dit. Donc, Tana, Debe, Eliyahu, c'est ces deux choses-là. C'est-à-dire une goutte de prophétie, si j'ose dire, qui tombe quand même, bien que la pluie se soit arrêtée, vous comprenez l'image, je suppose, et puis d'autre part, précisément, c'est apparu, c'est formulé pendant l'étude, mais on ne peut pas dire qui, vraiment, l'a dit. Vous comprenez l'image, enfin l'idée, le fait. À la fin d'un limoud, à la fin d'une étude, on établit qu'on a appris quelque chose de nouveau. Mais on ne peut pas dire, c'est Rabbi un tel, c'est Rabbi un tel, c'est arrivé entre l'étude de chacun. Alors on dit que c'est l'enseignement d'Eléon. Bon, les deux définitions finalement sont les mêmes, une dans la forme et l'autre dans le contenu. Et évidemment, vous trouverez qu'énormément des enseignements concernant ces choses mystérieuses qu'on appelle les temps messianiques, dans ce 11e chapitre de la Maseret Sanhedrin, sont rapportés à Élie le prophète. D'une autre manière, on pourrait dire, c'est un enseignement de la Kabbalah. Mais qui est le maître de la Kabbalah? C'est évidemment Eliyahu Hanavi, puisque la Kabbalah, c'est la suite de la prophétie après le temps de la prophétie. Bon, je referme la parenthèse, c'était juste l'intitulé. Donc, Tana de Eliyahu, on enseigne à l'école d'Élie le prophète, Shit Alfe Shana Have Alma. Le temps du monde dure 6000 ans. J'étais à la fine, 2000 ans, Tohu, de chaos. J'étais à la fine, Torah, 2000 ans de Torah. J'étais à la fine, Yemot HaMashiach, et 2000 ans des temps du Mashiach. Alors, dans ce premier, et après nous allons voir la suite, dans ce premier schéma, apparaît une expression qui va nous servir beaucoup. C'est-à-dire, on va diviser le temps de l'histoire du monde à partir du premier homme jusqu'à la fin du temps de l'histoire en Lamazé, ce monde-ci, qui commence avec l'être que la Torah nomme le premier homme, Adam Arishon. Je me réfère donc au séminaire de décembre. Ça doit donc durer, nous dit Élie le prophète, 6000 ans, et on divise ces 6000 ans en trois parties. Les deux premiers millénaires, depuis Adam Arishon, ça va grosso modo jusqu'à Abraham, à quelques années près. Mais disons 2000 ans, depuis Adam jusqu'à Abraham, sont appelés Tohu, c'est-à-dire 2000 ans de chaos. Ensuite, 2000 ans qui vont depuis, grosso modo, Abraham, jusqu'à la destruction du premier temple. Donc, à l'époque de l'arrêt de la prophétie comme phénomène historique, c'est 2000 ans de Torah, c'est-à-dire, disons, c'est pas la traduction exacte, mais par équivalent de révélation de la Torah. Et puis, depuis la destruction du premier temple jusqu'à la fin des 6000 ans, Yemot HaMashiach, les jours du Mashiach. Alors, je laisse de côté tout de suite, on reprendra ça après, la controverse qui va apparaître tout de suite avec la théologie chrétienne qui précisément situe sa messianité pendant ces 2000 ans-là. Alors nous allons voir que ce n'est pas pour rien. Les erreurs les plus graves sont les erreurs de la vérité. Mais cette question, je la laisserai de côté provisoirement. Et c'est cette expression-là qui va nous servir beaucoup dans l'enseignement du Maharal ici. Yemot HaMashiach, 2000 ans de jour du Messie, c'est-à-dire 2000 ans pendant lesquels le temps messianique aurait pu commencer, ou en termes beaucoup plus populaires, si vous voulez, ou immédiats, le Messie aurait pu venir. Alors vous voyez que nous avons déjà, rien à travers cette citation, énormément de sujets d'études qui vont être rencontrés dans l'analyse de ce chapitre. La suite de la citation, je reprends pour ceux qui viennent juste d'arriver. Tana de Eliyahu, on a enseigné à l'école d'Eliyahu, Shet Alfe Shana Have Alma, le temps du monde, de ce que nous appelons notre monde, qui commence avec le premier homme jusqu'à l'aboutissement messianique, dure 6000 ans. 2000 ans Tohu, de chaos, 2000 ans de Torah, 2000 ans les jours du Mashiach. Uba avonotenu, cher Abou, et à cause de nos fautes qui se sont multipliées, baravotenu, cher Abou, à cause du grand nombre de nos fautes, il y a là une précision importante, qui est d'ailleurs très enveloppée d'humour. S'il y avait des fautes, c'est pas grave, mais il y en a eu trop. Baravonotenu, cher Abou, c'est-à-dire des fautes n'auraient pas empêché, mais ces fautes se sont trop multipliées, d'une certaine manière. Baravonotenu, cher Abou, Yatsuna, Mashe Yatsu, sont sorties de ce temps-là toutes les années qui sont sorties. Et nous sommes ici au temps de la Gemara. Ça veut dire quelques siècles après le commencement de ces 2000 ans de Yemot HaMashiach. Et déjà, tout au début, on fait un bilan. Et au fond, dès la destruction du Temple, les temps messianiques auraient pu commencer. Vous connaissez cette tradition que le jour de la destruction du Temple, le Mashiach est né. Et il ne s'arrête pas de naître. Et si la génération mérite, il se dévoile. Je résume ça un peu comme ça. Et donc, dit la Gemara, « Vous baravotez nous, cher Abou, à cause de nos fautes, Yatsu, Mashé Yatsu, de ces 2000 ans. Nous avons perdu du temps. » Alors, vous remarquez que nous sommes maintenant à la fin de ces 2000 ans qui ont commencé il y a 2000 ans. Et bien, avant de tenir chez Rabou, à cause de nos fautes qui se sont multipliées, presque tous ces 2000 ans sont déjà passés sans qu'ils ne soient arrivés apparemment. C'est clair comme position du pot. Bon. Alors donc, encore une fois, ceci est une citation de la Maseret Sanhedrin à la page 97. Ah, et vous avez cela en bas de la page. Nous aurons à revenir sur cette citation en quelques lignes. Bien, tout le monde n'a pas de place? Zéro? Ah, à Tayotse ou à Taba? Hein? Mais tu restes. Bon. Alors, mais assieds-toi parce que je ne peux pas parler de vous. Continue. Bien. Et alors, il y a encore une chaise là. Si... Alors, on continue. Ven Safek, dit le Maharal, il n'y a pas de doute, chez Tsarir Taram Usvara, qu'il faut donner une raison et une explication. Taram, c'est une signification. Svara, c'est une signification perçue comme sens. Taram. Vous savez quel est l'autre sens du mot taram, c'est le goût. Bon. Et il faut donner une signification, ou svara, une explication. Svara, c'est un raisonnement. Svara, c'est une explicitation, si vous voulez. Donc il faut désigner la signification et l'explication. Shemechalek azman shel olam, leilu chalakim. Pour quelle raison notre texte divise le temps du monde dans ces trois parties-là. Dans ces parties-là. Ici, Maharal ne répète pas qu'il s'agit de trois parties, mais il va le dire tout à l'heure. Et par quel biais chacune de ces parties du temps du monde se relie au fait qu'il y a un temps du monde. C'est-à-dire, là je vais ouvrir une petite parenthèse, et ça nous renvoie encore au problème que le Maharal a étudié dans les chapitres précédents. Mais il faut d'abord découvrir que notre manière d'exister en tant que créature, le monde par rapport à Dieu, l'homme étant le monde conscient de lui-même, c'est à travers la durée. Ben, ce fait que la manière d'exister du monde, c'est pas seulement d'exister en tant qu'espace, mais en tant que temps. Notre manière d'exister consiste à durer, à être dans le temps. Bon, c'est un problème extrêmement complexe dans l'histoire de la philosophie, très très vaste, mais je crois qu'il faut d'abord mettre cela en évidence. Et c'est un problème pour lui-même, le fait que nous existions à travers le temps. Que exister, ça veut dire durer pour la créature. C'est donc qu'il y a une finalité de la durée par rapport à l'existence. Et bon, la réponse de la tradition juive, je la résume, ça pourrait faire l'objet d'études pour elle-même, c'est qu'il faut que nous ayons le temps de mériter d'avoir été créés. C'est-à-dire, il faut que nous ayons le temps de mériter d'être et qu'en réalité, nous existons, ça veut dire nous existons dans le temps, mais avec comme objectif d'être. Et c'est la différence entre exister et être. Est-ce que c'est suffisamment clair? Ou en hébreu, metziut, exister dans l'existence, et dans l'existence nous devenons, et être havaya. Alors, être vraiment dans le sens philosophique, ontologique, absolu, c'est Dieu qui est. Nous ne nous sommes pas. Nous existons. Alors faites bien attention, il n'y a pas là un jeu de mots. Il n'y a pas là, une façon de parler. C'est vraiment deux catégories radicalement différentes. Et nous sommes un peu aidés par l'élaboration du français philosophique, la différence entre être et exister. Et c'est donc une forme de conscience de soi qui implique déjà des postulats d'ordre religieux, prendre conscience de soi comme créature, et c'est très relié, et non pas comme l'être, et c'est très relié au problème de la finalité du temps. le temps a une finalité, comme si nous avions un problème à résoudre, mérité d'être. Et puis voilà que dans l'instantané de l'éternel, ce problème, nous ne pourrions pas le résoudre. Alors il nous est distribué en difficultés divisées à travers le temps, et à chaque instant, nous avons à résoudre une parcelle du problème du mérite d'être. Donc il y a une finalité au temps. Et là, l'atmosphère de la tradition juive est très radicalement différente de celle de la mentalité philosophique. Parce que le postulat de la mentalité philosophique, c'est que l'homme est déjà. Et par conséquent, il y a un problème pratiquement insoluble dans l'univers philosophique. Alors si l'homme est déjà, à quoi sert le temps? Mais finalement, la seule réponse, que ce problème a été très, très étudié au Moyen-Âge en Occident, la seule réponse qu'on va donner, c'est à se distraire. C'est-à-dire à passer le temps. Ici, je fais allusion à tuer le temps. Ici, je fais allusion à un terme qu'on trouve dans le vocabulaire de Pascal, dans le sens qu'il a dans le vocabulaire de Pascal, la distraction. Tout est fabriqué dans la civilisation contemporaine et pour offrir à la conscience toutes les occasions de distraction possibles et imaginables pour qu'on n'ait plus le temps de penser au vrai problème qui est à quoi sert le temps. C'est-à-dire au problème moral. Et la grande différence, si vous voulez, entre cette prise de conscience de l'hébreu, c'est que j'existe en tant que je suis créé et donc il faut que je mérite d'être. Et alors là, il y a une base au problème de la finalité du temps. Et d'autre part, la conscience philosophique qui dirait « je suis et je me mesure avec le problème du temps ». Quelle réponse donner? Peut-être que la plus cohérente a été celle de la philosophie d'Épicure, qui consiste à dire « eh bien, il faut occuper le temps, mais à l'occupation la plus noble, c'est-à-dire les plaisirs de l'esprit ». Je parle de la philosophie d'Épicure originelle, pas sa dégradation, bien entendu. Et par exemple, vous avez énormément d'épicuriens dans ce sens dans les milieux juifs. Et le plaisir de l'esprit le plus noble serait, par exemple, l'étude du Maharal. Mais faites attention de ne pas vous tromper, ou de Tosfot, de vous tromper d'attitude. Vous voyez pourquoi les rabbins ont diagnostiqué chez les épicuriens, dans le sens noble, l'apikoros par excellence, selon le langage rabbinique. Bien. Et alors, le Maharal vient de nous dire, il faut donc expliquer la raison pour laquelle la Gemara nous a enseigné que le temps, toute unité de temps, apparaît en trois parties, en trois moments. Alors je continue la lecture. « Ubiur inyan ze » L'élucidation de ce sujet. « Kiazman hu emshech hametzi » C'est que le temps, c'est littéralement d'abord continuation de l'existence. Bon, existence, ça veut dire exister, être là. Mais être là ne s'épuise pas dans l'instant, ce serait un instant d'éternité, un instant éternel, mais c'est continuer à exister. Un peu, il y aurait là l'idée de la vie, c'est en réalité toujours une survie. Il faut faire effort pour continuer à exister. Et c'est très exactement, je pense, en français, la notion de durée, telle que Bergson l'a expliqué. Je ne sais pas s'il avait consciemment, dans l'intention d'exposer une tradition juive, il n'avait pas étudié la tradition juive, mais je pense que son génie propre a parlé à travers son enseignement, mais de ça nous parlerons au mois de juin, surtout. Je ne pense pas du tout que Bergson puisse représenter la tradition juive ou la pensée juive, mais enfin, indéniablement, le fait que c'était un homme de génie fait qu'à travers lui, des intuitions de la tradition juive se sont exprimées. Et bien que ce soit évidemment pas son intention, c'est un autre problème. Et ça veut dire donc, le zman, le temps, c'est emshech hametziut. C'est cette chose surnaturelle, pour la raison pure et simple, qui fait que non seulement j'existe, mais je continue à exister d'instant en instant. Et une dimension supplémentaire de l'existence qui est d'exister à travers le temps. Parce que je pourrais exister à l'indice du passé. Ayant existé une fois, eh bien, je continuerai à exister en tant que passé. dans une mémoire de quelqu'un d'autre, par exemple. Mais non, je continue à exister dans un présent. Et cela, c'est la fonction du temps de donner à l'existence une dimension de permanence. Et au fond, le véritable temps, c'est le présent, c'est-à-dire le présent contemporain. Mais nous ne sommes jamais en coïncidence avec ce présent. Nous sommes toujours dans une espèce de... Je suis encore impressionné par la citation de Bergson, de spirale qui s'enroule, mais qui est simultanément passé et à venir autour d'un point présent avec lequel on n'arrive pas encore à coïncider. Mais le temps, c'est donc de la durée. Et vous voyez que nous trouvons déjà cela dans la formule du Maharal. Hemshech hametzivut, ça veut dire la durée de l'existence. Vechol hemshech, alors toute continuation, hemshech, itralek, itralek, leathala, ou mitralek, elemtsa, veelasso. Ici, nous pouvions passer une heure pour étudier pourquoi le Maharal s'est exprimé dans la forme comme il s'est exprimé, mais je vais simplement traduire. Et toute, donc, continuation du temps, toute durée, dirons-nous, se divise en commencement, début, atrala. Je préférais début à commencement, atrala, et non pas reshit. Okay? Dans d'autres textes, le Maharal dit reshit, mais ici, atrala, début, quelque chose qui est en débutement, si j'ose dire, qui est en commencement, qui est dans la manière d'être qui consiste à commencer à être et seulement cela. Seulement commencer à être. Atrala, emtsar, milieu, et sauf fin. Donc, si effectivement nous prenons au sérieux que le temps est une continuité de temps, alors le temps a trois visages, le temps a trois moments, le temps a trois dimensions. Un temps de commencement, un temps de milieu, un temps de fin. Et si nous retenons le fait que le temps a une qualité, qu'il n'est pas homogène, il se passe quelque chose à travers la durée, alors la qualité du temps du commencement, la qualité du temps du milieu, la qualité du temps de la fin, d'un moment de temps, n'est pas la même. Voilà donc l'explication du Maharal. Pourquoi, parlant des 6000 ans de l'histoire du monde, la Gemara nous dit, et ces 6000 ans doivent être évidemment divisés en 3, et c'est 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans, le Maharal explique, parce qu'en général, tout moment de temps compris tel que nous l'avons compris, a 3 à trois dimensions. C'est suffisamment clair? Bon, alors en avant. Vei efshar bepachot me'elu shlosha chalakim. Et il n'est pas possible qu'il y ait moins que ces trois qualités de temps, que ces trois parties de toute durée de temps. Vechol echad ve'echad yeshlo shem bifnei atzmo. Et chacune de ces trois parties du temps, de la chose temps, si j'ose dire, un nom pour lui-même, ça veut dire à une essence différente. Shem bifnei atzmo. Shem safek, parce qu'il n'y a pas de doute. Ki ha'atchala, que le début du fait du phénomène temps, hu mechulak min ha'emtsa'i, est séparé, divisé, différent que le temps du milieu. Je vais essayer d'avancer un peu rapidement en vous donnant une image. Alors imaginez donc qu'il se passe quelque chose à travers une courbe de temps. Alors il y a le temps du début qui est émergence. Le temps du milieu, c'est plénitude. C'est une sorte de sommet. Et chaque être a un visage qui le relie à l'être qui l'a précédé, un visage qui le relie à l'être qui va le suivre. Mais lui, il est dans son être de milieu. Il est lui-même dans le Emtsar, dans son milieu. Parce que sa partie supérieure est reliée à ce qu'il y a plus haut, sa partie inférieure est reliée à ce qu'il y a plus bas. Mais lui en lui-même, c'est le Emtsar. Est-ce que c'est clair? Et par conséquent, parler d'un temps du début et d'un temps du milieu, c'est différent. Donc il fallait d'abord découvrir qu'il y a le temps du début et qui, par nature, est différent du temps du milieu. C'est pas trop rapide? Alors on continue. Et vous comprenez ce qu'il veut nous dire. Et exister dans le temps du monde, dans les 2000 ans qui ont précédé Abraham, dans les 2000 ans qui vont d'Abraham à la destruction du temple, ou dans les 2000 ans à la fin desquels nous nous trouvons, c'est pas le même temps du monde. Et il veut tout de suite nous expliquer pourquoi la Torah ne peut être révélée que dans le temps du milieu. Alors, nous allons voir plus d'explications maintenant. Je reprends la phrase. וכל המשך יתחלק להתחלה ומתחלק לאמצע ולסוף, ואי אפשר בפחות מאלו שלושה חלקים. וכל אחד ואחד, chacune de ces parties du temps qui dure, יש לו שם בפני עצמו, doit être défini pour lui-même, pour elle-même. שאין ספק, car il n'y a pas de doute, qui a התחלה, que le début, הוא מחולק מן האמצעי, et est séparé, divisé, autre, différent, que le temps du milieu, et que le temps du milieu est différent, séparé, divisé, du temps de la fin. Car chacun de ces moments du temps, et ici, ce n'est pas seulement Shem Bifne Atzmo, un nom pour lui-même, mais Geder Bifne Atzmo. Ça veut dire une délimitation pour lui-même. Ça veut dire que ce n'est pas simplement une différence des sens du temps, dans la durée du temps, à travers ces trois moments, mais qu'il y a une limite historique, Geder, limite. Hagdara, c'est définition. Geder, c'est limite. Et c'est le même concept. Ça veut dire que non seulement il y a différence de, essence, c'est peut-être un peu trop fort, mais de qualité, mais il y a aussi des limites dans l'histoire, historiquement. Et c'est pourquoi mitralek gamken zman kol haolam, le temps que dure notre monde. Vous remarquez que simultanément je suis obligé, pour gagner du temps, de traduire et d'interpréter un peu en même temps. Kol haolam lishlosha chalakim elu, et c'est pourquoi le temps que dure le monde se divise en ces trois parties là kizman kol yemei haolam, car d'autre part nous savons que le temps de tous les jours que durera notre monde, vous, chechet à la fim, c'est 6000 ans. Kede itahatam, comme on apprend dans la suite de la citation que nous avons commencé, Amar Rab Katine, Chet Alfe Shana Have Alma. Le monde a 6000 ans. Vehad Harov. On a marqué ici Harev. Il vous manque un Vav dans le texte. Enfin, si vous vous référez au Talmud, ça veut dire que le monde... Alors, faites attention, je vais traduire le texte dans sa brutalité, et ce n'est qu'un peu plus tard que ça va être nuancé. Le monde dure 6000 ans, et un, ça veut dire le septième millénaire, il est détruit. Bon. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse. Peut-être qu'un des motifs profonds, inconscients, du refus de cette idée que le temps a une direction, que le temps a une finalité, que cela mène quelque part, ce qui est l'option messianique, est refusé à cause de cette crainte que si ça mène quelque part, après c'est fini. C'est-à-dire que peut-être que l'idée de la fin du monde nous gêne pour accepter l'idée de la fin des temps. Vous comprenez la différence, hein? Et là, nous avons une citation brutale, hein, qui nous dit « Le monde dure 6000 ans, et le septième millénaire, il est détruit. » Et alors, il faut commencer à trembler, parce que selon le calendrier hébraïque, on est en 5742, c'est dans pas longtemps. Alors, rassurez-vous, c'est pas pour nous, si c'est 6000 ans, mais ça peut être pour nos enfants. Et alors, rassurez-vous, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Mais je vous ai traduit ce qu'a décrit, et avec l'aide du Maharal, on va mieux comprendre. Alors, je reprends quand même la citation. « Et d'où savons-nous que le monde dure 6000 ans, parce qu'il est enseigné d'autre part que le monde dure 6000 ans. Là où il est enseigné que le monde dure 6000 ans et que le septième millénaire, il est détruit. » Bien, alors je continue. « Je Neemar, ainsi qu'il est dit, « Venisgav levado bayo mahu. » Et Dieu sera exalté seul en ce jour-là. Avant de voir la suite, je vous donne la référence de ce verset. C'est dans Isaïe, chapitre 2, verset 11. Venisgav Hashem levado bayom ahu. Et Dieu sera seul exalté en ce jour-là. Vous voyez comment la Notre Gemara utilise ce verset comme citation, Dieu seul, sans le monde. Alors on va un peu étudier ce verset. Je vous invite d'ailleurs à lire attentivement tout ce chapitre 2 d'Isaïe. Vous voyez la description la description de l'état du monde à la fin de son histoire d'engendrement, des temps messianiques, et là apparaît cette expression, et en ce jour-là, Bayomahu, en ce jour-là, nous vivons des jours qui ne sont pas encore ce jour-là, ce jour par excellence. En ce jour-là, Dieu seul sera exalté. Comment la Gemara utilise l'expression « Dieu sera seul » Ça veut dire que Dieu sera seul. Pendant tout le temps du temps du monde, Dieu, il y a Dieu et le monde. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu sera seul, qu'il n'y aura pas de monde. Ça veut dire donc que le monde sera détruit. Et donc ce rythme des 6000 ans, le 7e millénaire, dont le modèle est les 6 jours du commencement et le 7e, c'est un rythme auquel vous êtes déjà familier, signifierait pendant les 6000 ans, il y a Dieu et le monde, et le 7e, il n'y aura que Dieu seul, donc ça signifierait que le monde sera détruit. Alors, on va un peu entrer dans ce verset. Comment introduire cela rapidement ? Je vais d'abord faire l'interprétation en me basant sur l'hébreu du verset, et ensuite j'essaierai d'expliquer en français. Et vous savez que la Torah utilise deux termes pour parler de Dieu. Le terme de Hachem, qui est le mot qui en hébreu signifie le nom, Hachem, le nom par excellence, et qui désigne celui qui est Dieu. C'est le nom propre de celui qui est Dieu. Et d'autre part, le mot Dieu, qui est le mot de Elohim, qui désigne le fait que celui qui est Dieu, c'est Dieu qu'il est. Il est Dieu. C'est un substantif, mais qui aurait peut-être, par rapport à Hachem, plus un sens d'adjectif. Sa manière d'être est d'être Dieu. Et ce mot de Dieu est différent du terme qui est son nom propre, lui. L'être qui est Dieu. Hachem hu Elohim. C'est lui qui est Dieu. Et alors, vous entendez tout de suite ce que je veux formuler. Hachem levado, ça veut dire la dénomination de Dieu sera uniquement le nom de Hachem et plus celui de Elohim. Or, quelle est la différence ? La différence, c'est que le nom d'Elohim apparaît dans la relation entre Dieu et le monde. Et c'est l'attribut de rigueur, en me référant au tableau simple des deux attributs fondamentaux, l'attribut de miséricorde qui se nomme Hachem et l'attribut de rigueur qui se nomme Elohim. Et que nous percevons précisément d'abord à travers les lois de la nature. C'est-à-dire l'expérience de cette notion de Midat Ad-Din, l'attribut de rigueur, dans la relation entre Dieu et sa créature, il y a deux attributs différents. Le mystère de leur unité, c'est le mystère du monothéisme juif. Dire que l'un, c'est l'autre. Mais nous pouvons expérimenter, diagnostiquer deux médiations différentes. L'une à travers la rigueur absolue. Et quelle est notre expérience ? De cette expérience de la Midat Ad-Din, de la rigueur, c'est ce que nous appelons le déterminisme. Et ça, c'est Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. La relation de Dieu au monde à travers les lois de la nature. C'est là que nous avons, de façon privilégiée, l'expérience de la Midat Ad-Din, de la rigueur. On ne discute pas avec la vérité de la réalité. On ne discute pas avec la vérité des lois qui régissent la réalité. C'est là que nous avons l'expérience de Dieu en tant que Midat Ad-Din. Et c'est un visage terrible. La détermination. Dans le sens philosophique, le déterminisme. Mais il y a l'autre attribut. Et que nous expérimentons dans tout ce qui est qualitatif et non pas quantitatif, de l'ordre du sujet et non pas de l'objet, de l'ordre de la liberté et non pas du déterminisme, de l'ordre de la vie et non pas de la mort, c'est Hachem. Que l'un soit l'autre, c'est le mystère de l'affirmation du monothéisme hébreu. Que Hachem ou Elohim, c'est au-delà de la raison. Parce que la raison est soumise au principe de contradiction, comme vous le savez, et quand je suis occupé à percevoir la Midat Ad-Din, je ne perçois pas la Midat Ar-Rahamim. Et quand je suis occupé à percevoir la Midat Ar-Rahamim, je ne perçois pas la Midat Ad-Din. Et donc il y a l'affirmation que l'un c'est l'autre, mais qui prend sa force du fait que l'un c'est pas l'autre. Si j'ose dire comme ça. Et alors, dans cette expression Hachem Levado, nous pouvons entendre en hébreu Hachem seul, sans la Midat de Elohim. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va disparaître du monde ? Cet aspect où s'exprime la Midat Ad-Din dans la relation entre Dieu et le monde. Et cela va être dit en clair, mais un peu plus loin dans le Maharal, tout ce qui est déterminé dans l'être du monde va être détruit, va disparaître. Mais non pas le monde en tant que créature. Bon, au fond, si vous voulez, l'objet de cette analyse, c'est d'arriver à dissoudre cette affirmation brutale qui n'est pas du tout homogène à l'enseignement de la Bible, que Dieu aurait créé un monde en vue, après 6000 ans, de le détruire. Il y aurait ici, si vous voulez, le geste d'un démiurge qui crée un monde, et en vue de quoi ? La seule réponse qui serait donnée, c'est parce que tout seul, il s'ennuie. Alors qu'il crée un monde pour jouer avec pendant 6000 ans, et après, il détruit. Parce que... absurde. C'est-à-dire, ça ne peut pas être homogène, une telle notion à l'enseignement de la vie. Et donc le Maharal veut nous expliquer qu'est-ce qui disparaîtra le septième millénaire du monde, selon la citation de la Gemara. C'est cet aspect qui est traduit par le terme de Elohim. Et c'est le pshat du verset. Venisgav, Hashem Levado, Bayomav. Lorsque nous dirons Dieu seul, lui seul, ça veut dire lui seul en tant que Hashem, lui seul en tant que l'Amidat Arachamim, et va disparaître cet aspect qui accompagne l'histoire du monde et qui s'appelle, dans la relation de Dieu au monde, Elohim. Bon, j'ai fait cette explication en hébreu, parce qu'elle serait très difficile à faire en français, il nous faudrait tout le temps du séminaire pour arriver à retrouver les catégories en traduction, mais pour vous indiquer qu'effectivement, il y a une précision très exacte dans l'intention de la Gemara pour avoir choisi ce verset-là, Hachem Levad. Je dirais, et sous forme un peu récapitulée, avant que le monde ne soit créé, il y a Hachem Levado. Pendant toute l'histoire du monde, cette histoire de l'acquisition du mérite d'être, il y a Hachem Elohim, et ensuite, il y a de nouveau Hachem Levado. Est-ce que c'est clair? Vous vous rappelez des premiers mots du Adon Olam? Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol, Yetzir Nivra, Veahare Kirlotakol, Hu Levado, Imloch Nora. Bon, je ne traduis pas parce que ça nous ferait une heure. Mais c'est exactement la même forme. Et alors, qu'est-ce qui apparaît pour notre sujet? Qu'entre-temps, il y a une parenthèse, il y a un monde, et puis il va disparaître. Pas du tout. Le créateur, c'est pas le démiurge. C'est-à-dire, une de ces notions de la divinité qui a été pensée dans des religions païennes, que Dieu crée le monde, et puis ensuite le détruit. Les mots ayant un sens élémentaire. Non, Dieu crée le monde avec pour objectif que son œuvre devienne éternelle, mais à une condition, lorsqu'elle mérite de l'être et qu'elle se soit authentifiée. Imaginons cette image de l'architecte. Alors pendant tout le temps de la construction de la maison, il y a des échafaudages. Un jour, on détruira les échafaudages, mais c'est le monde vrai qui apparaîtra. Et quand on a détruit les échafaudages, le monde n'a pas disparu, au contraire. Peut-être c'est plus clair à travers cette image, et qui ne pourrait être pas comprise, que de ceux qui croient que ce sont les échafaudages qui est le monde. Bon, c'est ce que nous appelons en termes de la Kabbalah les Kelim, le Keli du monde disparaître. Et que ça veut dire qu'il disparaîtra? Il sera transfiguré en lumière. Et là, vous retrouvez énormément d'enseignements des prophètes, quand, par exemple, dans ces versets où l'on dit « les cieux s'évanouiront en fumée », etc., ça ne veut pas dire que le monde disparaîtra en tant que cet autre être que Dieu a voulu créer, autre que lui. Mais ça veut dire que l'état, Olamazé, l'état de ce monde-ci, à travers... si vous voulez, c'est 6000 ans de construction, d'engendrement, d'émergence, et alors c'est accompagné d'échafaudage, eh bien cet état-là changera. Ça ne signifie pas que le monde disparaîtra, purement et simplement. Voilà, alors je tenais à vous donner cette explication à l'avance, pour économiser du temps d'inquiétude, si j'ose dire, mais nous allons la retrouver, la retrouver dans le Maharal lui-même, en propre terme. Alors je continue la lecture. Shenehemar, 6000 ans et le 7e il est détruit. Shenehemar, Venisgav, Levado, Bayomav. Venehemar, Et il est dit d'autre part, c'est dans un verset des psaumes cette fois, c'est le verset 1 du psaume 92, « Shir le'yom ha-shabbat ». Mizmour, shir le'yom ha-shabbat. C'est le psaume du chant du septième jour, du jour du Shabbat, qui est le septième jour. Et la Gemara explique, qu'est-ce que ça veut dire le'yom ha-shabbat ? Yom shekulo Shabbat. Le jour qui sera tout entier Shabbat. Alors là, il faut expliquer un peu. Dans le temps de notre monde, pendant les 6000 ans, pendant les 6 jours, nous avons des moments de Shabbat. Mais il y aura un jour du monde qui sera tout entier Shabbat. Cette première étape des 6000 ans, à l'indice 6 simulé, bien, le monde est essentiellement un monde hol, un monde du déterminisme, un monde de ce monde-ci. Mais il y a des moments de transfiguration. Eh bien, il s'agit, dans ce septième jour, dans ce septième millénaire, dans ce jour tout entier Shabbat, d'un temps du monde qui est tout entier transfiguration. Six jours, on travaille. Et le septième, on ne travaille pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on a disparu. Ça veut dire qu'on est à un indice d'existence qui n'est plus celui des six jours. Et cet indice des six jours, lui, disparaît. Et non pas le sujet de la création. Celui que Dieu a voulu créer. C'est-à-dire que c'est l'état 6 qui disparaît dans l'état 7, si je dis. Mais cette indication nous est déjà donnée. Nous est déjà donnée dès la Gemara elle-même. Venehemar, encore une citation, qui, Elef Shanim, Benecha, Keyomet Mol, Kiyavur, Keyashmura, Balaila. Et là, c'est dans le psaume 90, verset 4. Et où nous avons le verset suivant, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il est passé. Ce qui nous apprend que lorsqu'on parle d'un jour devant Dieu, il s'agit de 1000 ans. Alors vous voyez comment ça s'organise dans la Gemara. Il arrivera un jour, en ce jour-là, où Dieu est seul, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de monde. Qu'il n'y aura que la médiation de miséricorde, qui s'appelle Hachem, et plus la médiation de rigueur, qui s'appelle Elohim. Ensuite, on nous parle de ce jour-là, qui est le septième, et qui est tout entier Shabbat, et ça ne veut pas dire que le monde a disparu dans le Shabbat, mais qu'il s'est transfiguré. Et ensuite, on nous rappelle qu'un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Et on revient donc à la citation de départ, que le monde dure 6000 ans, et un septième. Le septième, il est détruit. Mais maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui sera détruit. Et c'est là que commence l'explication du Maharal. Si c'est suffisamment clair, on peut voir la suite. Bien. Alors, on avance. Vous êtes à la 1, 2, 3, 8e ligne de la première colonne de la deuxième page. Ubiur inyanze. L'explication de cela, Mashé Amar, ce que le Maharal a dit, qui shet alfe shana ave alma vechad harev, que 6000 ans sera le monde et le septième détruit. Vezé, qui a darat mechayev. Cela, il faut d'abord établir le postulat suivant. La raison impose, darat, c'est plus que la raison, la connaissance nous impose de dire, shei et Hashem idvarach levado ba'olamo. Que Dieu soit seul dans son monde. Et j'introduirai encore un autre vocabulaire. Qu'il n'y ait pas de médiation. Qu'il n'y ait pas, par exemple, cette médiation des lois de la nature. Qui sont nécessaires, qui ont une finalité. Elles nous accompagnent tout le temps qui nous est nécessaire pour mériter d'être. Et nous sommes mesurés à elles. Nous sommes mesurés à cette mesure de la rigueur, à cette midat ha-din. Mais, par définition, il n'est pas normal qu'entre Dieu et nous, il y ait cette médiation de la nature. C'est-à-dire que, par définition, Dieu devrait être seul dans son monde. Vous voyez comment le Maharal s'exprime ? Il ne dit pas « Dieu devrait être seul et pas de monde ». Il dit « Dieu devrait être seul, be'olamo, dans son monde ». Mais c'est où Venisgab Hashem Levado ? Et c'est ça que ça veut dire, dit le Maharal, le verset d'Isaïe, « Et sera exalté Dieu seul en ce jour-là ». Bayomaru, en ce jour-là. Ce jour qui est la référence de l'utopie. Noé, il a déjà un temps, et nous verrons qu'il a un espace. qu'il est quelque part dans l'espace. Qui, Maolam, n'aurait